Le président américain et son adjoint seront punis pour la mort du plus grand commandant anti-Daesh, le général Qassem Soleimani, a déclaré le président iranien. Le sud de l'Arabie saoudite a été frappé et le chef de la junte guinéenne prend part aux célébrations de l'indépendance du Mali. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a appelé à des poursuites contre l'ancien président américain Donald Trump, soulignant que le président américain et son adjoint seront punis pour l'assassinat du haut commandant antiterroriste iranien, le général Qassem Soleimani. Le président Raisi a fait ces remarques alors qu'il s'adressait ce mercredi 21 septembre à la 77e session annuelle de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le président iranien a salué le rôle éminent et progressiste de l'Iran dans la lutte contre les politiques hégémoniques et interventionnistes, y compris le terrorisme créé et soutenu par les États-Unis. Il a noté comment, grâce au commandement du général Soleimani, l'Iran a réussi à déjouer les complots dont l'objectif est de modifier la carte politique du Moyen-Orient. Nous allons suivre la poursuite contre l'atrocité criminelle de l'ancien président américain Donald Trump et par le biais d'un tribunal équitable, a dit le président iranien. Le président iranien a rendu hommage au général Soleimani comme la personne qui est tombée en martyr sur la voie de la libération des nations de la région. Le président Raisi a ajouté que la simple poursuite de l'atrocité que Trump a admise équivaut à rendre service à l'humanité. Il a affirmé « Nous exigeons que la justice soit rendue par la condamnation de la personne qui a perpétré ce crime et de celui qui l'a ordonné par un tribunal équitable. » Le président iranien a défini ensuite la justice comme le critère par lequel tous les idéaux humains sont jugés. La justice se traduit par la négation à l'oppression, a-t-il déclaré. Il a souligné que la révolution islamique de 1979, qui est la manifestation du mouvement de la nation iranienne vers la justice, a réussi à maintenir sa dignité et son authenticité malgré toutes les épreuves. Le président Raisi a dénoncé certains pays pour avoir prétendu être partisans de la justice à l'intérieur de leurs frontières, tandis qu'ils encouragent et soutiennent divers types de terrorisme dans d'autres pays. Dans une autre partie de son discours, le président iranien a dénoncé l'approche de deux poids deux mesures de certains pays à l'égard de la question des droits de l'homme comme le facteur le plus important dans l'institutionnalisation de la violation des droits de l'homme. Il a cité des exemples de violations inadmissibles des droits de l'homme par les pays qui prétendent soutenir ces mêmes droits et a évoqué le massacre systématique d'enfants autochtones au Canada, la violation par le régime israélien du droit des Palestiniens à l'autodétermination et la violation par l'Occident du droit au développement et la prospérité de la population des pays frappés de sanctions. Le président Raisi a dénoncé les États-Unis pour avoir imposé des sanctions contre l'Iran comme moyen de punir la quête de la justice et de l'indépendance par la nation iranienne. Les sanctions sont des armes de destruction massive, a-t-il dit, condamnant toute coopération ou inaction vis-à-vis du régime des sanctions que les grandes puissances occidentales imposent aux pays souverains. Le président iranien a également qualifié la Palestine de nation la plus opprimée de l'histoire contemporaine. Il a évoqué l'histoire de plus de 70 ans d'apartheid, d'occupation et d'agression du régime sioniste contre les Palestiniens, réitérant la position de principe de la République islamique d'Iran, selon laquelle le sort de la Palestine devrait être déterminé par un référendum auquel participeraient tous les Palestiniens, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Le président Raisi a insisté sur le fait que le régime sioniste, qui continue d'occuper les territoires d'autres pays, ne peut pas être un partenaire pour la paix et la sécurité. Au milieu des tentatives féroces de Washington de piller davantage les ressources naturelles de la Syrie, ravagée par la guerre, l'armée américaine a utilisé des dizaines de camions-citernes pour faire passer en contrebande du pétrole brut de la province d'Ouarzazate, dans le nord-est de la Syrie, riche en énergie, vers des bases en Irak voisin, où les forces et les entraîneurs américains sont stationnés. Un convoi des forces d'occupation américaines, composé de 88 pétroliers chargés de pétrole syrien volé, est parti du point de passage illégitime de Mahmoudiya, est entré en territoire irakien, a déclaré Sana, citant des sources locales de la ville de Yarrubiya. Les sources ont noté que les forces américaines ont transféré le convoi vers leur base dans le nord de l'Irak. Selon les données publiées par le ministère syrien du pétrole et des ressources minérales, la Syrie a produit Un total de 14,5 millions de barils de pétrole au cours du premier semestre de l'année en cours 2022 et la production quotidienne de pétrole s'élevait à environ 80 300 barils. Les forces d'occupation américaines et leurs alliés Takfiri ont pillé 66 000 barils de pétrole brut au cours de la période mentionnée. Les données ont en outre montré qu'environ 14 200 barils étaient disponibles pour les raffineries de pétrole nationales syriennes. L'armée américaine a stationné des forces et du matériel dans le nord-est de la Syrie, le Pentagone affirmant que le déploiement vise à empêcher que les champs pétrolifères de la région ne tombent entre les mains des terroristes Daesh. Damas, cependant, maintient que le déploiement est destiné à piller les riches ressources minérales du pays. De grosses déflagrations ont été entendues ce mercredi matin 21 septembre dans la province d'Asir, au sud de l'Arabie saoudite et près de la zone frontalière yéménite. Des images et vidéos d'incendies massifs provenant d'une station électrique dans la province d'Asir circulent en effet sur les réseaux sociaux. Selon le site d'information yéménite Al-Akhbar al-Yémeni, un état de panique a été constaté parmi les habitants de la région qui s'interrogent sur les raisons des explosions, tandis que les autorités locales n'ont fait aucun commentaire jusqu'à présent. La presse saoudienne a pourtant prétendu que ces explosions se sont produites en raison de la foudre. Une information qui cependant n'a pas été confirmée officiellement. Asir, la province sud saoudienne ainsi que les provinces de Jizan et Najran ont été à plusieurs reprises la cible des représailles de la résistance yéménite au cours des 7 années de l'agression saoudienne. À noter qu'après l'instauration du cessez-le-feu de 2 mois à compter du vendredi 1er avril 2022 et qui a été prolongé de 4 mois, la situation au Yémen s'est quelque peu calmée malgré les violations continues par la coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Les sources d'information yéménites ont annoncé ce mercredi 21 septembre que des millions de yéménites sont descendus dans les rues de la ville Sada pour célébrer le 7e anniversaire de la révolution du 21 septembre. Les participants à cette marche ont commémoré cette journée en brandissant des portraits d'Abdul Malik Badreddine Al-Houssi, le chef d'Ansarallah du Yémen. Dans un communiqué lu en marge de cette marche, la révolution du 21 septembre a été identifiée un mouvement purement yéménite, financé par le peuple. Une révolution qui a motivé les yéménites à faire face à l'agression et à la domination étrangère. À cette occasion, la résistance yéménite a dévoilé, lors d'un défilé militaire, de nouveaux missiles balistiques à longue portée. Les nouveaux missiles yéménites ont été dévoilés lors d'un défilé militaire en présence du chef du Conseil politique suprême du Yémen, Mahdi al-Mashat. Le chef de la junte guinéenne est arrivé mercredi 21 septembre au Mali, à la veille de la fête de l'indépendance de ce voisin également dirigé par des militaires, mais aussi d'un rendez-vous diplomatique lourd d'enjeux pour les deux pays. Ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya, le premier hors des frontières depuis que lui et ses hommes ont pris le pouvoir en septembre 2021, n'a donné lieu à une communication publique qu'après son arrivée. Le colonel Doumbouya a été accueilli avec tous les honneurs à sa descente de l'avion présidentiel de la République du Mali par le président Assimi Goïta, chef de la junte malienne, ont indiqué les services de ce dernier dans un communiqué qui parle de visite d'amitié et de travail. Les autorités maliennes ont envoyé l'avion chercher le colonel Doumbouya à Conakry. Le Mali célèbre jeudi le 62e anniversaire de son indépendance. Le même jour doit se tenir en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York un sommet extraordinaire de l'Organisation des États Ouest-Africains, CDAO, qui devrait être principalement consacré à la Guinée et au Mali. Le Mali, à 2 reprises, et la Guinée font partie avec le Burkina Faso des pays de la CDAO où les militaires se sont emparés du pouvoir au cours des 2 dernières années. Le sommet devrait examiner la réponse à apporter au plan des militaires guinéens de se maintenir pendant 3 ans à la tête du pays avant de céder la place à des civils élus. Le président en exercice de la CDAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, a prévenu mercredi que la Guinée allait au-devant de lourdes sanctions si la junte persistait dans ce dessein. La CDAO a infligé en janvier un sévère embargo commercial et financier au Mali pour sanctionner le projet des militaires de rester au pouvoir jusqu'à 5 années supplémentaires. La junte, dirigée par le colonel Assimi Goïta, s'est depuis engagée sous la pression à organiser des élections en février 2024 et la CDAO a levé l'embargo. Mais le Mali et la Guinée restent suspendus des organes de la CDAO. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Guerre nucléaire de Poutine. Le mardi 20 septembre, la TV russe s'est mise pour la première fois à diffuser des images de ce qu'elle a qualifié de bon boulot accompli par le Shahed 136 iranien, que la Russie ne devra du tout avoir honte d'exposer, car, mis à l'heure russe, ces drones pourraient déclencher une tendance asymétrique au sein de notre armée propre à l'adapter aux besoins de la guerre moderne, selon la TV russe. Selon des données préliminaires, le véhicule aérien sans pilote Gérant 2 a heurté un convoi logistique de l'armée ukrainienne se dirigeant vers la région de Kherson. L'utilisation du drone Kamikaze Gérant 2 est attestée par les débris trouvés sur le site de la cible touchée, à savoir les éléments de l'aile du drone avec le nom du véhicule aérien sans pilote imprimé dessus, ainsi que le numéro de sa série. Malgré les affirmations de l'armée ukrainienne, selon lesquelles le drone aurait été abattu avant de pouvoir frapper, la nature des dommages causés aux éléments de l'aile indique que l'avion a explosé après être entré en collision avec sa cible. À quoi rime cette révélation ? À ce que l'armée de terre russe vient d'accomplir avec succès le processus d'adaptation des drones de conception iranienne, lesquels drones l'aident à se passer de gros missiles tactiques qui, bien qu'utilisés avec succès, ont jusqu'ici du mal à couper les lignes d'approvisionnement intra-OTAN. Soulignons que Kharkov, Nikopol, Kherson se situe sur un axe de quelques 900 km de longueur, ce qui en dit long sur le champ d'opération bien large et surtout le nombre de drones utilisés pour chaque opération anti-OTAN. Le reportage ajoute « Les autres utilisations réussies de ce véhicule aérien sans pilote prouvent qu'il est un moyen extrêmement efficace pour atteindre des cibles stratégiques. Cela est dû à ses dimensions relativement réduites, à sa capacité à voler à basse altitude ainsi qu'à sa vitesse de vol élevée, ce qui lui permet d'échapper aux attaques de la DSA ennemie. Est-ce à dire que le front de combat anti-OTAN se vide peu à peu des armes classiques pour être littéralement dirigé par les drones iraniens? C'est le reportage qui apporte la réponse. Désormais, la Russie possède des centaines de drones kamikazes et gérants 2. Les experts ont attiré l'attention sur les numéros de série des drones qui avaient déjà atteint leur cible, qui prouvent qu'il y a des numéros de centimes, indiquant que la Russie a encore beaucoup de drones de frappe de ce type. En temps d'essai très court, ces petits avions d'attaque se sont avérés très efficaces, car ils ont réussi à frapper même des véhicules blindés lourds, des gares, des unités d'artillerie et même des batteries de HIMARS. L'armée ukrainienne et ses alliés sont extrêmement mécontents de l'utilisation de ces drones, car il s'agit d'engins d'une grande maniabilité et furtivité qui ont la vertu supplémentaire d'opérer en réseau entre eux ou avec d'autres armements. Mais à quoi renvoie très exactement cette vertu ? Ainsi, à l'ouest de Kharkov, ce mercredi 21 septembre, un grand train ferroviaire bourré d'équipements militaires a été pulvérisé à l'aide de missiles à guidage de précision qu'ont assisté des drones de reconnaissance iraniens Yasir. Il n'a pas été possible d'établir la nature de la cargaison pour le moment. Cependant, celle-ci pourrait avoir été destinée à être utilisée dans le cadre d'une offensive dans la région de Kharkov, encore totalement incontrôlée, ainsi que sur le territoire de la République populaire de Luhansk. En jugé par l'absence de signes de forte détonation, les voitures pourraient très probablement avoir contenu des armes et des uniformes. Cependant, les experts ont également attiré l'attention sur la présence de réservoirs de chemin de fer calciné dans lesquels du carburant pour l'équipement militaire des forces armées ukrainiennes pourrait bien avoir été transporté. Les roquettes tactiques et les drones ont fait un excellent boulot. Un excellent boulot, c'est une façon de dire, car c'est tout un chemin de fer que drone roquette tactique qu'on a tous les droits du monde de croire être Fajr 5 iranien, qui vient ainsi être mis hors service. La question est dès lors la suivante. Juste avant d'annoncer la mobilisation partielle, annonce qu'il a combiné à la menace du recours à l'arme nucléaire, le président Poutine a-t-il imposé un changement radical du terrain de jeu avec en perspective l'émergence des grosses lignes d'une guerre de sixième génération signée Iran-Russie ? Bien trop probable, et ceci ne semble qu'être un début, car une fois le nettoyage à coups de drones roquettes tactiques made in Iran achevé, la Russie pourrait passer à l'étape supérieure, soit celle d'éliminer les quelques 70 satellites militaires plus une centaine de civils qui excitent Shoigu, assure la communication intra-OTAN en Ukraine et le faire évidemment par ses excellents missiles nucléaires hypersoniques. Ce jeudi matin, 22 septembre, les Yankees ont annoncé prendre trop au sérieux la menace nucléaire de Poutine, qui, comme il a dit lui-même, n'a rien d'un coup de bluff. Sauf que, trop lent, qu'ils sont à piger des virages, ils se sont mis à menacer de broyer la Crimée en contrepartie.